Bonjour, je m'appelle Jean Rottner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de celles et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et celles et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde, et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir et de vous présenter Salomé Berlioux. J'ai été profondément marqué par ses écrits qui ont eu un impact sur mes engagements politiques et personnels. Salomé est l'auteur de plusieurs ouvrages influents. Les Invisibles de la République, coécrit avec Erki Maillard en 2019, sorti chez Lafon, Nos campagnes suspendues en 2020 aux éditions de l'Observatoire. Et ces deux ouvrages abordent la problématique de la ruralité en France, et notamment durant et après le Covid en ce qui concerne nos campagnes suspendues. La peau des pêches, sorti en 2021 chez Stock, c'est un autre sujet poignant, grave, qui aborde l'infertilité des couples touchant à la fois, en ce qui me concerne, mon cœur de médecin, de père et d'acteur public. Originaire de l'Allier, mais passant par le Cher et la Nièvre, Salomé a achevé son baccalauréat à Nevers avant de poursuivre ses études en hypocagne au lycée Fénelon à Paris. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, de l'École normale supérieure et de la Sorbonne et a occupé des postes de conseillère ministérielle. Aujourd'hui, Salomé dirige Chemin d'avenir. Nous allons beaucoup en parler, une initiative qu'elle a créée pour informer, guider, promouvoir les jeunes. Elle se consacre à les aider à bâtir des parcours personnels ambitieux en leur fournissant des outils adaptés pour développer leurs projets, peu importe finalement leur lieu de vie. Bonjour Salomé, comment
Bonjour.
Allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Quand on dirige une entreprise de type RSE, avec une responsabilité sociale comme la vôtre, quand on est un auteur reconnu, comment est-ce que vous réagissez après avoir observé la situation française, à une phrase que j'aime beaucoup d'Anna Scott dans Les Insolents, qui dit « La beauté est faite pour les gens qui ont le temps de l'absorber ». Est-ce que vous avez le temps, malgré toutes vos occupations, malgré tous vos engagements, eh bien, d'absorber la beauté ?
Alors, c'est drôle que vous parliez de ce livre parce que je l'ai offert à ma mère pour Noël. Et j'ai très envie de le lire également, donc je ne l'ai pas encore lu, mais cette citation me donne encore plus envie de
Alors,
lire.
Il faut absolument, Salomé, que vous le lisiez,
ouais,
parce que pas. Covid, campagne, personnalités qui font des choix sont vraiment au menu de ce livre, et je crois que Anna Scott nous interroge beaucoup en tout cas.
Oui, ça m'a donné vraiment très très envie, donc elle l'a lu et elle me l'a redonné, donc je vais pouvoir le lire. Est-ce que j'ai le temps
d'absorber et le beau.
J'essaie de le prendre en tout cas. Je pense, bon, aujourd'hui je vais avoir 35 ans au mois de mai. Je pense qu'il y a eu plusieurs années où j'étais quand même beaucoup dans la frénésie des actions, de la recherche d'impact, de la production écrite, de la communication aussi sur ce qu'on faisait avec le Chemin d'avenir, et on y reviendra sans doute, et une forme de boulimie d'activité qui était en partie liée au fait que j'avais plus de temps sur le plan personnel, puisque je n'avais pas d'enfant et que, comme vous l'avez dit en introduction, ça faisait partie des choses qui me faisaient beaucoup souffrir. Donc, je pense que j'étais dans une logique aussi d'occuper le temps avec toutes ces activités. Et donc, paradoxalement, peut-être que je le prenais moins pour regarder les choses autour de moi. Aujourd'hui, par la force des choses, étant justement devenue maman de jumeaux qui ont 2 ans et demi, un petit garçon et une petite fille, c'est fou comme ce changement-là oblige à s'arrêter, à être plus dans le temps présent, à dégager du temps pour parfois ne rien faire, pour être assise par terre sur les genoux et juste regarder ce qui se passe.
C'est là que vous la voyez, la beauté, aujourd'hui ?
Vous voyez, c'est de ça dont je vous parle en premier, donc j'imagine que ça ne s'invente pas. Oui, enfin, alors je la vois, c'est là où d'ailleurs... on ne change pas. Je la vois autour de mes enfants et dans les interactions avec eux et dans leur façon d'être au monde qui a quelque chose de fascinant pour moi. Je la vois quand même énormément et encore aujourd'hui à la campagne et dans la campagne, dans les campagnes et le fait d'habiter à Paris depuis longtemps maintenant parce que je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans. Je suis toujours amoureuse de Paris, de cette ville, de ses opportunités, toujours très séduite quand je traverse la Seine à vélo ou en bus, je ne m'en lasse pas. Et pour autant, être allongée dans la forêt de Troncet à côté de chez mes parents, dans un jardin, et découvrir d'autres formes de campagne d'ailleurs, que ce soit dans l'Est, dans le Sud ou dans le Nord de la France, c'est aussi là que je vois la beauté. Et puis peut-être dernièrement, enfin troisième source pour moi, que j'identifie vraiment comme essentielle, c'est dans la littérature et dans la lecture de manière générale, et ça fait partie des choses que je suis heureuse de n'avoir jamais abandonné jusqu'à présent, la lecture, je veux dire.
Vous l'avez dit, vous aimez la campagne, vous la décrivez parfois peut-être même dans vos ouvrages et dans nos campagnes du suspendu juste après le Covid, avec non pas une forme de désespérance, mais de constats souvent assez crus, assez lucides. Est-ce que vous retrouvez de la beauté quand même dans ces constats, dans ces témoignages des Français que vous êtes allés chercher partout d'ailleurs, Nicolas Mathieu, le Goncourt 2018, qui... préface votre ouvrage, qui est originaire des Vosges, donc une grande thèse, j'en suis un petit peu fier, dit de vous, sa manie d'apiculteur, son besoin d'aller collecter ici et là le miel des vies qui bruissent à peine, chez elle, formuler le problème, c'est aussitôt lui chercher des solutions. Alors comment est-ce que vous allez butiner? Comment est-ce que vous trouvez vos interlocuteurs? J'ai été frappé de cela parce que vous en avez un peu partout en France, ils sont différents, c'est des élus, c'est des jeunes, c'est des paysans, c'est... des commerçants, c'est des gens qui doutent de tout, qui doutent de la France. Comment est-ce que vous les trouvez ?
Alors, je pense que ce réflexe d'appuyer des écrits sur des témoignages, il s'est développé au moment des Invisibles de la République, donc du premier livre dont vous parliez, que j'ai coécrit avec Erki Maillard. Donc, en fait... La genèse de ce livre, c'est ça faisait déjà 2 ans qu'on avait fondé Chemin d'Avenir, que j'accompagnais et qu'on accompagnait avec une équipe de bénévoles quelques centaines de jeunes, à l'époque essentiellement dans l'académie de Clermont-Ferrand et dans l'académie de Nancy-Metz et dans l'académie de Grenoble. Donc on en était à des périodes de tests, mais déjà je voyais émerger tellement de matière venant des jeunes eux-mêmes, venant de leurs parents, venant de leur chef d'établissement, de leur... conseiller d'orientation nouvellement PsyEN et des élus locaux, je me suis dit mais c'est pas possible, ces jeunes sont extrêmement nombreux, ils ont plein de choses à raconter, il y a manifestement un sujet d'égalité des chances, on n'en parle pas, faisons un livre. Et donc faisons un livre ancré dans la réalité, sur le terrain, dans des récits incarnés, enfin vraiment au sens fait de chair et pas juste... lisse ou à distance, et puis ensuite effectivement essayons de formuler des propositions, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai retrouvé le même réflexe au moment de nos campagnes suspendues, et je pense, là c'est plus personnel, mais que pour moi c'est aussi une manière de légitimer le fait d'écrire en s'appuyant sur la parole d'autres, c'est-à-dire que moi je ne suis qu'un passeur quelque part, je recueille les histoires, éventuellement je les synthétise ou je les organise autour d'idées fortes pour les mettre en valeur, et puis c'est tout.
Mais vous écrivez quand même, et je vous cite, « Le récit, une fois encore, me passionne et me blesse. » C'est ça qui est important. Mmh. « Ils ont tant à dire, à raconter, à décrire et s'en défendre, pourtant étonné qu'on les questionne, gênés, souvent haussant probablement les épaules à l'autre bout du fil. Qui ça va intéresser, ce que je raconte ?»
Ouais. Oui, oui, ça c'est vrai que ça ressort à chaque fois, bah, notamment dans ces territoires que j'aime le plus, dans les territoires ruraux ou dans les toutes petites villes, des gens que j'interroge en étant convaincue qu'ils et elles ont non seulement des choses à dire, mais parfois bien plus de choses à dire que d'autres, et qu'il faut faire entendre leur voix, et que finalement, bah, eux, mieux que quiconque, sont capables de parler de leur réalité, de leurs défis, de leurs angoisses, de leurs problèmes, de leurs envies. Et je me suis très souvent heurtée à soit une fin de non-recevoir dans certains cas, parce qu'il y a aussi une forme de pudeur, parfois à l'excès, soit à cette formulation, mais qu'est-ce que ça va intéresser, qui est-ce qui va lire ça, à quoi ça sert que je vous raconte ce quotidien et ces défis. Et donc il faut creuser, et ça effectivement ça me passionne aussi quand la parole ne se livre pas tout de suite.
C'est assez paradoxal, parce que quand vous écrivez effectivement votre deuxième ouvrage, Nos campagnes suspendues, on est à la sortie du Covid, où il y a une forme d'amour ou de redécouverte, on va dire, de certains Français qui existent une campagne et une province, ou de certains métropolitains plutôt, qui, pour pas fixer que les Parisiens, qu'il existe bien effectivement une province, une ruralité. Il y a de nouveaux équilibres économiques qui se mettent en place, la vente directe de proximité qui aujourd'hui, on le voit bien, connaît quelques difficultés. Pardon. Comment est-ce que vous passez finalement de ces deux ouvrages à la décision de dire, eh bien ma grande, je vais me prendre en charge, eh bien je vais passer à l'action et je vais créer quelque chose qui va pouvoir aider les jeunes. C'est quoi le déclic ?
Oui, alors en fait, en réalité, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que Chemin d'avenir précède l'écriture de ces livres, et ces livres naissent de mes actions à travers Chemin d'avenir. Puisque Chemin d'avenir, je crée cette association en 2016. Bon, comme toujours, vous l'avez décrit en introduction, tout ça est aussi le fruit d'une expérience personnelle, de cette enfance dans l'Allier, où mes parents vivent toujours, enfin ma mère et mon beau-père, de l'attachement que j'ai toujours pour ce territoire, et en même temps, je pense que créer Chemin d'avenir, c'était une manière de rentrer chez moi sans rentrer chez moi, d'y passer à la fois du temps et surtout d'y consacrer de l'énergie, de l'attention, en restant à Paris, ce qui était mon souhait, ce qui reste mon souhait aujourd'hui. Mais donc, en fait, que ce soit Les Invisibles de la République, qui naît de ses actions auprès des jeunes dans la ruralité et dans les petites villes sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, ou Nos campagnes suspendues, qui naît pour le coup d'une vraie... c'était plus instinctif et plus un coup de sang pour moi, l'écriture de ce livre, que j'ai écrit d'ailleurs très vite. Hein.
Clairement, c'était de dire... Le Covid, il n'y a pas que les grandes villes, il n'y a pas que l'Est de la France, toute la France.
Vous rigolez ou quoi? Et puis arrêtez de dire qu'il va y avoir une revanche des campagnes et que tout à coup, tous les urbains parisiens, lyonnais, bordelais vont se précipiter pour aller vivre dans le Cantal ou dans la Nièvre. Je disais juste, j'attends de voir.
Je crois qu'il y a même un de vos témoins qui dit ils vont enfin découvrir notre vie.
Oui, c'est ça. Allez-y, venez. Et puis il y en avait aussi beaucoup, notamment des élus, hein, d'ailleurs, qui disaient qu'ils viennent passer deux hivers chez nous, à mon avis, ils vont déchanter aussi, parce qu'effectivement, on n'est pas toujours dans l'image d'Épinal qui voulait bien être décrite, y compris dans la presse, d'ailleurs, au moment du coronavirus, et qui dit habiter en province, comme on dit, ne dit pas forcément grande maison avec un jardin, une piscine et un accès à la plage. Ça n'existe pas, ou quasiment pas, ou alors ça existe effectivement pour des urbains qui ont des résidences secondaires. Donc voilà, Nos campagnes suspendues, c'était ça, mais avec tout un gros chapitre d'ailleurs qui était encore dédié à la question des jeunes dans la ruralité et les petites villes et des conséquences du Covid sur eux, parce que à nouveau on n'en parlait pas du tout et on parlait, et c'est bien normal, on parlait des jeunes par exemple dans des situations financières très très tendues dans le cœur des grandes métropoles ou dans les quartiers dits sensibles, et il fallait en parler. Mais encore une fois, il y avait un peu cette espèce de tendance à imaginer à l'époque faire ses classes à la campagne, être confiné à la campagne, bah, c'était pas grave parce que de toute façon on avait de l'espace et donc ça n'aurait pas un grand impact sur sa qualité de vie. Nous, ce qu'on voyait avec Chemin d'avenir, c'était des jeunes qui avaient des problèmes de connexion pour suivre suivre les cours, tout simplement, dont les professeurs étaient obligés d'aller déposer les cours dans la boîte aux lettres du collège ou du lycée, parce qu'encore une fois, soit pas de connexion, soit pas suffisamment de matériel informatique, des jeunes qui n'allaient pas pouvoir avoir leur petit stage ou leur job d'été qui allait leur permettre de financer leurs études ensuite et qui du coup abandonnaient leur projet d'études, des jeunes dont les parents disaient « Attends, attends, tu es très gentil, on ne va pas du tout t'envoyer faire tes études à Clermont-Ferrand, à Dijon ou à Rennes, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en septembre et que toutes ces histoires de confinement ne donnent pas envie du tout. Tu restes chez nous dans notre petit village. » Enfin bref, des projets de vie lourds de conséquences pour cette jeunesse dont on ne parlait pas. Donc comme souvent chez moi, c'est parti de la jeunesse et puis ensuite...
Parce que vous analysez effectivement les personnes âgées, les agriculteurs, oui. Vous faites un vrai travail, c'est vrai, sociologique. Moi, je me souviens d'une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais dans un lycée à Brouillères, près d'Épinal, c'est à quelques kilomètres d'Épinal, et c'était avant le Covid. Et donc, en plus de ce que vous venez de dire avec le frein du Covid, il y a aussi une forme de frein sociologique dans les familles. Et un jeune visiblement doué qui me disait « Bien, mes parents refusent que j'aille à Épinal faire des études supérieures parce que dans la famille, personne n'a jamais fait d'études supérieures. Et donc, ma destinée, c'est d'être finalement ouvrier. » Il n'y a pas de honte à être ouvrier, mais c'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir. Et vous dites « Le Covid a encore amplifié cela. »
Oui, tout à fait, dans ces territoires-là. Alors, c'est vrai que, donc, chemin d'avenir, notre objectif, c'est effectivement de permettre aux jeunes collégiens, lycéens, puis étudiants, quand ils font des études supérieures, ce qui n'est pas toujours le cas parmi les jeunes qu'on accompagne, de réaliser leur potentiel dans la ruralité.
Alors, expliquez-nous très concrètement, ça se fait comment ? Je suis jeune, j'ai 16 ans, comment est-ce que je trouve chemin d'avenir ?
Oui, alors, soit... votre établissement scolaire est conventionné avec Chemin d'Avenir. On a 150 établissements partenaires à peu près, notamment dans la région Grand Est. On va venir présenter nos actions dans votre collège ou dans votre lycée et vous pourrez postuler pour nous rejoindre ensuite. Soit vous entendez parler de nous sur des réseaux sociaux qui ciblent les jeunes, soit vous allez avoir une campagne de communication dans une petite ligne de train si vous prenez justement un train au sein de votre territoire. Voilà, on essaie là de développer de plus en plus des actions de communication large pour que n'importe quel jeune dans n'importe quel petit village ou hameau de France, et bientôt en Outre-mer d'ailleurs, puisse entendre parler de nous. À partir de ce moment-là, vous vivez dans un village ou dans une petite ville et vous avez envie d'être accompagné par Chemin d'Avenir, on va vous accompagner pendant un an, renouvelable par la suite, dans la construction de votre parcours académique, donc scolaire, professionnel ou pré-professionnel et citoyen. Ça veut dire qu'on va vous donner des outils, une méthodologie d'accompagnement et de révélation de qui vous êtes, un système de mentorat individuel où chaque jeune chez Chemin d'Avenir a un mentor qui lui est 100% dédié pendant un an et qui l'aide dans la construction.
Qui n'est pas forcément de son territoire.
Pas du tout. Et même au contraire, volontairement, on essaie que un jeune à côté d'Épinal, par exemple, soit parrainé par un mentor qui va habiter peut-être dans la campagne, mais du côté de Perpignan, ou à Paris, ou dans une petite ville pas trop loin de Lyon, de manière à ce que, à travers cette relation de mentorat, il y ait une ouverture du champ des possibles, une découverte d'un autre bassin d'emploi, d'autres réflexes, d'un autre territoire, et que la mobilité sociale et géographique soit possible à travers ce mentorat-là.
Et d'arriver justement à casser cette autocensure dont je parlais tout à l'heure.
Oui,
c'est bien cela.
Tout à fait. À travers donc cette méthodologie, à travers le mentorat, à travers des formations thématiques qu'on fait au sein des établissements sur la confiance en soi, sur l'utilisation du numérique à des fins professionnalisantes, sur l'écriture comme outil de réalisation de soi, et puis à travers enfin ce qu'on nous on appelle les opportunités différenciantes chez Chemin d'Avenir, qui consistent à donner accès à nos jeunes à des bourses, à des offres de stage, à des visites d'entreprise, à des sorties culturelles, de manière à ce qu'un jeune qui sort de Chemin d'Avenir ait plus confiance en lui, plus confiance en l'avenir, et muscler son CV aussi, et puis faire des stages et tester ses intuitions sur son territoire ou ailleurs, et développer son sens de l'engagement, par exemple en créant le journal de son lycée, en s'engageant dans une association écolo ou en faisant de la politique dans le village d'à côté, et puis grâce à des bourses, aller voir ailleurs comment ça se passe, et puis grâce à un mentor, avoir un ou des rôles modèles différents de ceux de son environnement immédiat, tout ça centré autour de cette ambition de révéler leur potentiel, le potentiel de ces jeunes, que ce potentiel soit de reprendre la ferme ferme de leurs parents, d'être ouvrier ou d'être ingénieur, pilote de chasse, hôtesse de l'air ou de faire une grande école. Il n'y a pas de volonté chez nous d'amener tous les jeunes vers des filières sélectives ou vers des grandes métropoles. La question, notre obsession, c'est la question du choix. La question de déterminer son avenir de la manière la plus libre possible, si tant est qu'on soit libre de déterminer son avenir, mais c'est un autre sujet, et que ces jeunes, de la même façon que quand ils habitent dans le cœur de Bordeaux ou de Paris, puissent construire leur futur à la hauteur de qui ils sont.
Et pour vous, est-ce que c'est de l'égalité, c'est de l'équité, c'est de la discrimination positive? Comment est-ce que vous caractérisez ça? Ou c'est ce qui devrait être normal et
oui.
Un accompagnement normal.
Ce qui est sûr, c'est que cette question, ces jeunes qui sont très très nombreux, hein, parce que enfin, j'imagine que vos auditeurs le savent, mais pour un public moins averti, les jeunes dans la ruralité, c'est 23% des moins de 20 ans. Si on y ajoute les jeunes des petites villes, 42% des moins de 20 ans. Donc en fait, on est à 10 millions des moins de 20 ans. Donc c'est énorme comme part des jeunes français. Et pour autant, et malgré tous les obstacles qu'ils ont à surmonter, ils sont restés pendant très longtemps dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances. Donc l'idée, c'est de combler un trou dans la raquette. Alors évidemment, ça peut pas être Chemin d'avenir qui fait ça seul. Raison pour laquelle on a construit notre action autour de deux grands axes. Premier axe qui correspond à notre action directe, l'accompagnement de milliers de jeunes de façon individuelle dans ces territoires. Donc là, depuis le début de l'association, on a accompagné un peu plus de 8000 jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Et puis la deuxième jambe, le deuxième axe de nos actions, qui est au moins aussi important, c'est la question du plaidoyer, de la stratégie d'influence, c'est-à-dire changer la vie des jeunes avec la jambe 1 et changer la société française au profit de ces jeunes dans la jambe 2, de façon à faire évoluer les mentalités, à faire en sorte qu'on voit plus ces jeunes, qu'on les identifie mieux, qu'on comprenne plus leurs défis, et de façon à ce que des acteurs bien plus puissants que Chemin d'avenir, les pouvoirs publics, les entreprises, les médias, d'autres associations, s'emparent de la question de l'avenir de ces jeunes et déploient enfin des dispositifs à destination de cette large partie de la jeunesse.
Quelqu'un que vous connaissez qui est Jean-Marc Huard, l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire, l'ancien DGESCO, mais aussi après recteur de la région académique du Grand Est, avec qui j'évoquais le fait que je vous verrai bientôt, et il vous salue, me disait que vous avez eu une influence là aussi sur ces décisions. Donc on peut aussi, dans une politique nationale, avoir des acteurs et des initiatives privées comme la vôtre, bien venir soutenir finalement ce qu'on peut appeler bien la responsabilité collective autour de l'éducation, autour de la formation, autour de la prise en charge de cette jeunesse. Pour vous, c'est quelque chose d'essentiel, cette rencontre entre finalement, on va dire, la force publique et l'initiative privée, l'initiative citoyenne.
Je pense que c'est particulièrement vrai dans les questions d'éducation et de jeunesse. C'est-à-dire que on fait peser quand même une très lourde responsabilité sur les épaules de l'éducation nationale, et elle peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout et pas tout toute seule. On lui demande de travailler sur la transmission des savoirs fondamentaux, sur les questions d'inégalité des chances, sur les questions d'assignation à résidence, sur les questions de décrochage scolaire, les questions financières, les questions de mobilité, de projets professionnels, et puis avec en plus des questions parfois critiques d'ordre psychologique liées au post-coronavirus, liées à des situations familiales complexes. Donc c'est beaucoup pour une seule institution, et donc le fait de penser que l'éducation nationale peut et doit s'appuyer sur d'autres acteurs, évidemment les collectivités territoriales qui ont aussi ces compétences, évidemment les entreprises et évidemment des associations de terrain qui peuvent agir comme une espèce de laboratoire social et territorial d'innovation, et qui peuvent autant que possible, modestement mais de façon très déterminée, inspirer les politiques publiques. Je trouve ça vraiment fondamental. Encore faut-il avoir ce positionnement que nous on a chez Chemin d'avenir depuis le début, qui est un positionnement à la fois ambitieux, parce que c'est important ce qu'on fait, et que c'est politique aussi. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est politique pas au sens partisan, mais
au sens de
ça l'est indéniablement. Et en même temps, encore une fois, rester modeste, parce que forcément, il s'agit pas de de donner des leçons de morale à qui que ce soit, dans le sens où, vous voyez, je
veux Salomé, dire... la modestie quand même, quand on regarde Chemin d'avenir, c'est combien de jeunes pris en charge?
Oui, c'est 8000, mais c'est... vous voyez, versus toute une classe
d'accord,
d'âge.
D'accord, mais c'est quand même 8000.
Oui, oui, c'est 8000.
Par rapport à la beauté et à la question du départ,
oui, on fait des choses.
8000, c'est quand même beau.
C'est... Oui, mais vous voyez, si on veut être à la hauteur de l'enjeu, de toute façon, ça ne peut pas être Chemin d'avenir qui va faire les choses seul. Nous, si on tire la courbe de notre croissance de manière, encore une fois, suffisamment ambitieuse, mais en étant centré sur la qualité de notre accompagnement, peut-être qu'on aura accompagné 20 000 jeunes d'ici fin 2025, c'est bien, mais encore une fois, on parle potentiellement de 10 millions de jeunes, d'où le fait d'influer des acteurs plus avec une force de frappe bien supérieure à la nôtre. Et donc vous parliez notamment de Monsieur Huard, c'est vrai que ça fait partie des interlocuteurs auprès desquels j'ai beaucoup défendu l'idée de tester des territoires éducatifs ruraux sur le format des cités éducatives. C'était une des recommandations que j'avais pu formuler auprès de Jean-Michel Blanquer.
Parce que vous avez fait un très bon rapport que j'ai devant moi là aussi avec et que j'invite tous nos auditeurs à parcourir, disponible sur le net, et je le mettrai en référence là aussi sur le site. Effectivement, vous avez préconisé un certain nombre d'axes de développement, 25 pour être exact, auprès de Jean-Michel Blanquer. Il y a des choses simples, mais qu'on ne fait pas. Il y a des choses qui pourraient être même, on va dire, peu coûteuses, mais que l'on pourrait mettre en place de manière assez simple.
Oui, mais vous voyez, j'ai adoré, c'est un exercice d'écriture que j'ai adoré à titre personnel, parce que là, pour le coup, la question du style était assez secondaire, même s'il fallait que ce soit un style simple, efficace, pas justement pas pompeux, et un peu en allant à l'essentiel. Mais le fait de chercher à faire un constat très acéré et tout de suite de l'adosser à des recommandations de politique publique en imaginant pouvoir le faire à crédit constant, parce que sinon c'est trop facile si on fait des recommandations qui ne peuvent pas être mises en place parce que c'est très cher et complètement disproportionné, ça n'a pas de sens. Faire des allers-retours avec le cabinet du ministre de façon à ce que ça coïncide aussi avec un agenda politique pour que y ait des opportunités et que ça puisse déboucher sur des expérimentations par la suite. C'était très édifiant, y compris pour moi. Après, évidemment, maintenant, toute la question, et Chemin d'avenir est pas mal mobilisé là-dessus, c'est de voir si ça marche.
Et après, parce que là, vous avez commencé un peu sur mode start-up, et encore, c'est impressionnant quand on arrive chez vous, parce que il y a plein de monde, ça commence à être une grosse start-up. L'avenir de Chemin d'avenir, c'est quoi?
Alors,
comment est-ce que vous l'imaginez? Oui. Comment est-ce que... Allez, je vais vous poser la question. Dans 3 ans, Chemin d'avenir a réussi. C'est quoi pour vous cette réussite?
Alors,
ou cette transformation?
Oui, c'est ça. Ça fait partie des questions qu'on se pose beaucoup au sein du comité de direction de Chemin d'avenir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est 36 salariés avec un comité de direction, donc qui fait que toutes les décisions stratégiques, les questions de développement, de là où on veut être dans 3 ans, on se les pose à plusieurs, ce qui change tout, et ce qui est assez fabuleux, y compris pour moi. Mais donc, là où on serait dans 3 ans, dans le meilleur des cas, je pense que Chemin d'avenir... qui d'ailleurs peut-être aura changé de nom, car j'ai un directeur de la communication et du marketing qui, il serait fâché de savoir que je le dis là, mais qui en gros me fait bien comprendre que ce nom de Chemin d'avenir était un nom aussi à l'instinct impulsif auquel je suis très attachée, mais que peut-être qu'un jour, pour des raisons d'impact, il devra être amené à évoluer, pourquoi pas. Bon, ça c'est du détail. Mais cette association, l'idée c'est qu'elle soit centrée sur justement cette logique de laboratoire d'innovation sociale et territoriale. Donc qu'on accompagne un petit nombre de jeunes, par petit j'entends peut-être quelques milliers, hein, mais en tout cas qu'on ne soit pas dans une course effrénée du nombre, de manière à pouvoir être vraiment dans le très qualitatif, à pouvoir mesurer notre impact, à pouvoir travailler avec les parents, avec les établissements, avec les rectorats, à pouvoir mailler le territoire de façon très dense pour vraiment changer les choses pour ces jeunes-là et pour être toujours dans la logique d'inspirer d'autres acteurs. Idéalement, sur le deuxième axe dont je vous parlais, il faut dans 3 ans que... il y a plus de politiques publiques à destination de ces jeunes, que des politiques publiques existantes, je vais vous donner des exemples, et toujours un volet ruralité qui soit adossé, je pense par exemple au pass culture. Le pass culture c'est bien, mais le pass culture dans la ruralité, il peut un peu rater le coche s'il s'agit d'une ouverture à des cultures élitistes type l'opéra, type le théâtre, type les musées. Si ça n'existe pas à proximité immédiate du domicile du jeune dans la ruralité, bon bah il peut livrer chez lui des livres et des mangas. C'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est pas transformateur. Donc il y a toujours ce réflexe en termes de politique publique avec penser ce volet ruralité. Je pense aussi par exemple à la question des stages qui se pose quand même de manière assez forte quand on est dans ces territoires-là. On pourra en reparler. Mais donc voilà, là je parlais de secteurs publics et des politiques publiques, mais je pense aussi à la question des entreprises. C'est-à-dire que le jour où toutes les grandes entreprises et d'ailleurs celles qui sont aussi très implantées localement, mais souvent elles sont plus sensibles à ces questions-là, mais auront intégré dans leur dispositif RH la notion de diversité territoriale, et de se dire que, je sais pas, quand le siège d'un grand groupe à Paris ouvre des postes avec des emplois de cadre pour des jeunes diplômés, un jeune dans la ruralité, aussi intelligent et prometteur soit-il, petit 1, il n'aura sans doute pas accès à cette offre, petit 2, s'il y a accès pour aller passer l'entretien, ça va être plus coûteux en termes de temps et sur le plan financier, petit 3, il n'aura peut-être pas fait l'école qui fait bien sur le CV, petit 4, quand il passera l'entretien, parfois il perdra confiance en lui parce que ce sera la première fois qu'il met un costume et une cravate et qu'il n'a pas forcément les codes. Petit 5, si il réussit à surmonter tous ces obstacles et qu'il entre dans cette grande entreprise, encore faudra-t-il l'accompagner, lui donner de l'attention, du temps pour lui permettre de lutter contre ses biais d'autocensure et d'acquérir les codes qui lui permettront de réussir dans l'emploi. Donc vous voyez, pour moi, dans 3 ans, Chemin d'avenir est solide. Solide sur ses acquis, continue à se réinventer sur un petit nombre de jeunes et a surtout réussi à influer sur les mentalités et sur des dispositifs de façon à transformer la société française au profit des jeunes dont nous parlons.
Mais Salomé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce discours il se répète maintenant depuis longtemps en France, que vous êtes beaucoup d'acteurs finalement de cette responsabilité sociale de la prise en charge des jeunes, que ce soit en quartier difficile, que ce soit en ruralité, que ce soit en position d'échec, de décrocheurs, et qui manque parfois un maillage entre les actions des uns et des autres. Dans ce podcast, j'ai accueilli déjà des gens qui, comme vous, agissent pour les uns sur le décrochage scolaire, pour les autres sur le mentorat. Vous le faites un peu de la même manière, de manière plus ciblée sur la ruralité. Qu'est-ce qui manque en France pour qu'on ait finalement cette responsabilité collective? Vous avez cité l'entreprise, on a cité les pouvoirs publics, on cite finalement les parents, l'entourage direct du jeune, les commerçants, les artisans, les chambres de commerce, enfin, toutes ces forces vives, ces corps intermédiaires en France. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ne se mettent pas ensemble en disant « c'est vraiment un sujet de notre pays » ?
Je me garderai bien de dire exactement ce qu'il faut faire. Là où vous avez raison, c'est qu'on est vraiment plus fort quand on agit ensemble. Donc, vous parliez du mentorat, c'est la raison pour laquelle Chemin d'avenir a rejoint ce collectif d'associations qui s'appelle le collectif mentorat, qui d'ailleurs, à elles seules, ont permis d'impulser une autre politique qui est un jeune, un mentor, et qui permet tout à coup de passer à l'échelle et de faire en sorte que le mentorat se généralise en France. Donc, effectivement, ce réflexe de s'associer, de se coordonner, de travailler de concert avec des interlocuteurs proches de soi ou différents de soi, il est essentiel. Et encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des thématiques. Sur les questions d'éducation et dans les territoires dont on parle, je suis convaincue, pour le coup, autant je ne donne pas de leçons, autant là, c'est une conviction qui vient de ce que je vois, qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler de la façon que vous décrivez, c'est-à-dire de faire travailler main dans la main les pouvoirs publics, les entreprises, l'école, les parents, les employeurs locaux, les associations, le grand public, au service de la réussite des jeunes dans ces territoires. Et que si on ne fait pas ça, il y aura parfois des briques de solutions qui reposeront souvent sur la bonne volonté ou l'impulsion d'un élu local, d'un chef d'établissement ou d'un parent motivé ou d'une association, je ne sais pas, sur l'accès à la culture ou sur l'émancipation par le sport particulièrement dynamique, mais ça ne permet pas de passer la rampe, de changer l'échelle. Donc effectivement, et Chemin d'avenir, de ce point de vue-là, on essaie à petit point constant de créer un écosystème de réussite autour de ces jeunes. Et en fait, on est encore une fois là qu'un passeur et un catalyseur des énergies existantes. Mais ça n'existait pas. Ce qui est vrai, c'est que ça n'existait pas dans les territoires dont on parle. En tout cas, pas avec une approche à la fois très locale et très nationale.
J'ai une petite question personnelle. Est-ce que vous avez des nouvelles de Lila, 15 ans, qui avait un projet, je crois, d'études aux États-Unis ou du côté de Montréal, je ne sais plus, et qui, à cause du Covid, a vu tout cela remis en cause et qui se disait, ben, c'est fini, c'est une opportunité qui disparaît. Vous aviez beau lui dire que la liberté reviendra, aucun argument ne tenait la route à ses yeux.
Oui, je me souviens très bien de ces échanges. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Parfois, j'ai des nouvelles de jeunes que j'ai accompagnés ou qu'on a accompagnés avec Chemin d'Avenir ou qu'on a interviewés dans le cadre d'un de ses livres il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est toujours très fort, soit positivement parce qu'on se dit « Ah, voilà, il, elle, a déployé ses ailes et s'il avait su à ce moment-là à quel point ce serait plus chouette. »
Si vous aviez un exemple, vraiment, votre plus belle réussite. Vous allez me dire, il y en a tellement, mais quelque chose.
Ne sont pas les miennes.
Voilà, non, mais quelque chose qui démontre à nos auditeurs, finalement, quelque chose d'un peu totémique, d'un peu très fort, une expérience d'un jeune qui n'y croyait pas et finalement qui se retrouve dans une situation qu'il a toujours rêvé.
Oui, bah, vous voyez, c'est, alors, sans forcément d'ailleurs tomber dans des exemples forcément extraordinaires. Parce
non,
que,
très simple, voilà, très vraiment, simple. C'est le rêve du jeune.
Exactement. Je pense à une jeune fille. Qui habitait dans la campagne pas très loin de Rion, donc plutôt dans mon territoire d'origine, enfin pas dans l'Allier mais dans le Puy-de-Dôme, dont les parents n'avaient pas du tout fait d'études supérieures, qui avait une petite sœur dont elle s'occupait beaucoup et qui rêvait, elle, de travailler dans le droit. Est-ce que c'est parce qu'elle avait regardé des séries à la télé? Est-ce que c'est parce qu'elle avait cette intuition-là? En tout cas, elle en avait très envie. Elle fait partie de la première ou de la deuxième promotion Chemin d'Avenir, donc c'était encore l'époque où je les connaissais tous individuellement et où on allait dans les établissements scolaires et où j'y allais aussi beaucoup pour leur parler. Cette jeune fille, plusieurs années après, donc elle a eu une marraine Chemin d'Avenir qui était avocate, qui venait elle-même du sud de la France, du côté de Hyères, qui était allée à Paris pour faire ses études, qui avait fait le collège de Bruges, qui correspondait pour elle à un parcours de réussite très fort, toujours attaché à son territoire, mais avec des possibilités de mobilité en France et à l'étranger. Et donc, cette jeune fille, Véronica, elle a été donc accompagnée par Violette pendant plusieurs années. Je sais qu'elles ont été suffisamment proches pour que Véronica lui envoie des fleurs à son mariage, pour qu'elle continue à échanger bien après le parrainage. Et Véronica, envers et contre tout, a fait du droit, s'est engagée au sein de son territoire, y compris en créant, alors en s'engageant au sein de son université, en prenant des responsabilités au sein de son université, en créant des systèmes d'épicerie solidaire. Et puis pour tout vous dire, il y a quelques mois, elle a rejoint le conseil d'administration de Chemin d'Avenir de manière à porter la parole des jeunes filleuls et anciens filleuls au sein de notre conseil d'administration et donc d'influer sur notre stratégie. Donc voilà, c'est pas une jeune fille que je vois régulièrement, mais il y a quelques jours, j'avais un conseil d'administration avec elle et c'est toujours chouette de voir qu'elle est ultra épanouie, pleine de projets et très accompli.
Alors, je l'ai dit en introduction, vous avez beaucoup écrit effectivement sur cette ruralité, sur ce qu'est la France. Pour vous, la ruralité, c'est une force?
Ah oui. Oui, oui. Je l'ai pas toujours vécu comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi, il faut faire attention de pas être dans la post-rationalisation. C'est facile pour moi aujourd'hui de dire que c'est une force. Il y a eu des moments où je l'ai senti, où j'ai senti mon origine rurale, mes origines rurales, mon ancrage géographique.
À quel moment vous avez senti ça?
Tous les moments de transition.
De charnière, quand vous rentrez, par exemple, dans l'enseignement supérieur.
Pas, ouais. Le passage du collège au lycée, où malgré tout, quitter l'Urcy-Lévis dans l'Allier pour aller au lycée à Nevers, j'avais l'impression d'être la campagnarde par rapport aux gens de Nevers.
Là, vous le faisiez remarquer ou...
Oui. Et puis, enfin, alors, je pense que c'était aussi beaucoup du ressenti, mais je m'habillais pas comme les gens qui habitaient à Nevers depuis toujours. J'avais pas vu ce qu'il fallait voir, j'avais pas lu ce qu'il fallait lire. Et puis, à nouveau, j'arrive à Paris, évidemment. Alors là, le gap est monstrueux. Je raconte parfois cet exemple qui n'a d'intérêt que parce qu'il est imagé, mais de un de mes premiers rendez-vous avec un garçon quand je suis à Paris en classe prépa. On se balade le long de la Seine et on passe un peu par hasard, je ne sais plus si c'était devant le Petit ou le Grand Palais, et il me demande si je préfère l'architecture du Petit ou du Grand Palais. Et évidemment, je n'en sais rien, c'est la première fois que je vois le Petit Palais, je trouve ça très beau. De là à être capable de faire une comparaison argumentée et poussée sur ces questions d'architecture, je me souviens être rentrée chez moi en pleurant, et de cette conversation avec mon grand-père qui m'avait dit à l'époque, il est mort quelques mois après, mais qui m'avait dit « Mais Salomé, relativise. Toi, tu sais reconnaître le chant des oiseaux. Et je lui avais répondu un peu vertement que ça n'allait pas vraiment m'aider à réussir les concours que je voulais réussir. Et voilà, donc encore une fois, à tous ces moments-là...
Mais il avait bien raison.
Il avait raison. Je sais.
Alors, sur le moment, peut-être c'était difficile à accepter, mais finalement, il a...
Et puis c'est des âges où de toute façon, tout est un peu douloureux ou complexe ou angoissant. Donc c'est pas que le fait de venir de la ruralité et d'essayer d'affronter le monde parisien qui crée ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, rétrospectivement, effectivement, je sens à quel point est-ce que c'est une force et un ancrage pour moi. Oui, ça c'est sûr.
Alors, sans transition, on va passer à La peau des pêches.
Très bien.
Qui est votre ouvrage autour de l'infertilité. C'est un récit littéraire qu'on pourrait qualifier allant de l'intime finalement à un sujet universel, remis d'ailleurs au goût du jour récemment par le président de la République. C'est à la fois moi je l'ai lu comme une très belle histoire d'amour entre un couple, entre Diane et Aurélien, et en même temps j'avais l'impression en lisant cet ouvrage comme si j'avais un pic permanent planté quelque part, parce que c'est aussi, même si c'est un récit et une belle histoire d'amour, c'est aussi un récit de douleur, un récit complexe, un récit difficile autour effectivement de l'infertilité, qui transforme toute une vie. Pourquoi est-ce que vous avez eu finalement cette envie, cet acte d'écriture sur ce sujet-là, qui est votre histoire, ce que vous avez traversé, à quel moment vous décidez de l'écrire?
Alors, je pense que quelque part, c'est un peu le même mécanisme que pour la création de Chemin d'avenir et pour l'écriture des Invisibles de la République. C'est-à-dire, je vivais une situation personnelle que je trouvais très douloureuse. En creusant un peu, j'ai été frappée par, petit 1, le fait de me rendre compte qu'on était si nombreux à souffrir d'infertilité, donc en fait à ne pas réussir à avoir d'enfants. Je ne savais pas encore à quel point on était nombreux, parce que la réalité c'est que c'est 3,3 millions de personnes concernées en France, enfin directement touchées. Donc en fait c'est 6,6 millions parce que c'est le couple, quand la femme est concernée, l'homme l'est aussi et réciproquement, donc presque 7 millions de personnes en France, nombreux, très très nombreux, et qui pourtant faisaient face et font face à un silence très lourd sur le sujet, et qui quelque part devait, comme moi, comme mon compagnon et moi, affronter cette situation seule. Il y avait une espèce de paradoxe que je trouvais insupportable, comme sur la question des jeunes ruraux quelque part, et comme, enfin voilà, cette espèce de d'angle mort, d'impensé, de tabou dans le cas de l'infertilité. Et donc là, c'est mon côté, je ne sais pas si c'est tête brûlée, mais il fallait que j'en parle.
Alors, je vous arrête sur ce mot tabou, parce que moi, il m'intéresse. Mm-hmm. Je suis issu, effectivement, du monde de la santé. Je me suis beaucoup interrogé pendant la lecture de votre livre, en me disant finalement, quand on a des proches, des gens que l'on connaît, qui vivent la situation qui était la vôtre, est-ce qu'on n'aborde pas ce sujet parce qu'on se sent un peu inconfortable, parce qu'on se sent embarrassé, parce qu'on est gêné, parce que ça perturbe, ça pose plein de questions, parce que parfois il y a des préjugés aussi complètement, complètement idiots, parce qu'on est vraiment mal à l'aise, parce qu'on est désorienté, parce qu'on connaît peu finalement les sujets, les méthodes qui permettent de vaincre l'infertilité, et parfois il y a des croyances populaires aussi complètement stupides. Vous pensez, comment est-ce que vous décririez le mieux ce mot tabou dans la société française?
Oui, pour moi c'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire quand il y a un sujet qui concerne tellement de personnes et qu'on en parle si peu et qu'on est gêné de l'aborder à l'échelle individuelle, à l'échelle des familles et à l'échelle plus collective, pour moi, c'est un tabou. C'est-à-dire, il y a un truc qui cloche. Enfin, c'est...
Alors, qu'est-ce qui cloche? C'est parce qu'on le comprend pas? C'est parce que c'est trop compliqué? Parce que c'est trop intime aussi?
Oui, alors c'est drôle d'ailleurs, parce que j'ai, il y a quelques temps, une journaliste qui m'a interrogée là-dessus pour la presse écrite et qui me disait, mais justement, est-ce que vous pensez ça bien qu'il y ait une parole politique sur le sujet alors que ça relève profondément de l'intime? Et en fait, pour moi, on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire, ça relève de l'intime, mais en réalité, si on cantonne cette question à l'intime et à l'intimité des couples, alors que c'est un sujet de santé publique et qui va croissant manifestement, c'est là où on est à côté de la plaque, parce que c'est un sujet politique aussi. Mais donc, pour répondre à votre question, je me demande s'il n'y a pas donc de la gêne et, comme vous le dites, une forme de d'impossibilité à positionner le sujet. Est-ce que c'est du côté de la mort? Est-ce que c'est du côté de la vie? Est-ce que quand on en parle, on va blesser les interlocuteurs? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'ignorer? Et puis, les couples eux-mêmes ont du mal à en parler.
Dans ce que vous dites, c'est hyper intéressant parce que vous le décrivez même vous-même à un moment donné dans, dans vos lignes. Quand on vous parle des embryons congelés, qu'on va jeter, on ne sait pas si on est dans le vivant, dans la mort, dans l'espoir, dans le désespoir. C'est
des frontières un peu troubles, absolument, et où en fait, de toute façon, c'est là où c'est très compliqué, je pense. Enfin, je peux pas parler pour eux et pour tous, mais pour des couples qui doivent se lancer dans un parcours d'aide médicale à la procréation et à qui donc on va dans le cas d'une fécondation in vitro, ce qui était notre cas à mon compagnon et à moi, c'est-à-dire le fait de prélever à la fois du côté de la femme et du côté de l'homme les gamètes, et puis de fabriquer, pour le dire un peu grossièrement, les embryons in vitro avant de les transférer. Il y a tous ces actes qui, en fait, obligent quelque part à conscientiser les choses à l'excès et à imaginer, à voir, à concevoir à quel point est-ce que le jour où on transfère ces embryons, vous êtes potentiellement enceinte. Alors qu'évidemment...
Voilà, parce qu'il y a toute cette préparation pour que vous soyez la plus fertile possible pour accueillir effectivement les embryons.
Et donc, ce qui veut dire que quand vous rentrez chez vous ce jour-là, bien plus que si vous vous contentiez quelque part de faire l'amour avec votre compagnon et peut-être un jour d'être enceinte pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, qui sait, là, tout à coup, vous rentrez chez vous. Et d'ailleurs, certains médecins vous disent ne bougez pas, restez au lit, attention, parce que vous êtes peut-être enceinte. Et puis 10 jours après, en fait, vous faites un test et vous n'êtes peut-être aussi pas enceinte.
Est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on a le sentiment peut-être de perdre une forme de féminité?
Ah oui, bah
et c'est de masculinité,
oui,
d'ailleurs.
Oui, les deux. Ah, c'est sûr que je pense que, enfin, en tout cas, de ce que j'entends des témoignages que je reçois depuis l'apparition de La Peau des Pêches, c'est une des choses qui me bouleverse le plus. Et bon, je le dis vraiment en étant très à l'aise avec ça, mais c'est très rare que je ne pleure pas en recevant les témoignages de ces femmes et de ces hommes, surtout de ces femmes, mais qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me raconter leurs histoires suite à l'apparition de La Peau des Pêches. Et effectivement, le fait de tomber à l'échelle individuelle, donc quand on est une femme ou un homme, et à l'échelle d'un couple, dans ces process médicaux qui sont très lourds, pas du tout romantique, pas du tout agréable sur le plan physique, et qui vous raccroche à des contingences matérielles de l'ordre des piqûres, de l'ordre des ponctions, de l'ordre des échecs de transfert d'embryons, des fausses couches aussi, enfin tout un univers qui, comme vous dites, empêche de rester dans une forme de féminité ou de masculinité, au sens où, en tout cas, on la fantasmait quand on était plus jeune. Après, je suis convaincue, et encore une fois, les témoignages que je reçois me confortent là-dedans, que les femmes, les hommes et les couples concernés ressortent parfois de là plus forts, et ils ont éprouvé leur endurance, leur persévérance, leur pugnacité et leur amour. Certains, malheureusement, se cassent un peu la figure sur ce process, mais quand on arrive à le surmonter, on en sort plus fort. Rappelons quand même, parce que je pense que c'est vraiment important pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas ces questions d'infertilité, je pense que ça fait partie des lieux communs sur la question, et que c'est vraiment important de le dire. Rappelons qu'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut faire attention à ne pas lui dire « mais ne t'inquiète pas, tu vas faire une PMA et dans quelques mois, vous serez papa et maman et vous allez rentrer avec un enfant chez vous ». Une PMA, ça dure des années. D'ailleurs, en fait, les journalistes parlent de PMA, procréation médicalement assistée. Les médecins préfèrent parler d'AMP, aide médicale à la procréation, qui est plus juste d'un point de vue ce qui est plus significatif, parce qu'on aide les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, on les aide dans leur projet de famille, donc c'est aussi de l'ordre de la réparation, mais en tout cas seul un couple sur deux en France réussit à avoir un enfant après une AMP, donc c'est loin d'être systématique et on est loin d'être dans le cliché de vous avez une baguette magique, vous vous faites deux ou trois piqûres et vous prenez un petit peu de vitamine C et ensuite vous avez un bébé chez vous quelques mois
et
plus
tard. Et de rajouter quand on est un peu en dehors de la situation, de toute manière c'est dans ta tête, ça va aller mieux.
N'y pense plus, voilà. Pars en vacances, si possible aux Caraïbes, et tu rentreras enceinte, c'est évident.
C'est juste, voilà, ce qui ne marche absolument pas.
Pas du tout, parce que comment lâcher prise et ne pas y penser quand, encore une fois, on doit se faire des piqûres matin, midi et soir, c'est une injonction contradictoire.
Vous l'écrivez formidablement bien, vous écrivez « L'infertilité ronge les âmes, piétine les corps, massacre la sève des amoureuses qui participaient de leur vitalité, peu à peu s'émousse, demain Aurélien, que restera-t-il de nous ?» Ça décrit bien ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire à la fois cette difficulté physique, et votre livre est assez rude techniquement parce qu'il décrit, et en même temps, il y a des moments de douceur, de poésie, d'interrogation, de dialogue de couple, de doute à deux. Est-ce qu'on réfléchit mieux à deux dans ces moments-là? Comment est-ce qu'on va de « je suis femme, je suis homme » à « nous sommes un couple » ?
J'aurais du mal à répondre encore une fois pour tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est tellement
mais dans ce que vous avez vécu, comment est-ce qu'on va finalement de la joie, de l'espoir à la colère, à la souffrance, à l'échec, c'est ce dialogue permanent qu'il faut essayer de maintenir.
Oui, envers et contre tout, et en fait ce qui est paradoxal, c'est qu'évidemment, un couple sait quand il est ensemble qu'il peut se séparer pour une raison ou pour une autre. Là, dans notre cas à nous, y compris parce que c'était ce qu'on appelle un peu, de manière un peu, comment dire, caricaturale, mais c'était une infertilité inexpliquée. Sur le papier, tout allait très bien. Si bien d'ailleurs que des gens, des proches de la famille ont pu à certains moments nous conseiller de tout simplement nous séparer. Parce qu'en fait, bien sûr, on voulait avoir des enfants ensemble et on espérait passer notre vie ensemble. Mais à un moment donné, si on n'y arrivait pas, il valait peut-être mieux aller voir ailleurs et essayer de voir si on pouvait pas faire famille avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous imaginez le paradoxe.
D'autant plus compliqué chez vous que vous faisiez déjà famille parce que votre compagnon avait
une petite fille
et que vous jouez vous aussi le rôle de la belle-mère.
Exactement.
Et pas de mère. Et vous insistez beaucoup là-dessus. Et donc, se séparer dans une situation où il y a déjà un noyau familial, pour vous, c'est quelque chose juste d'inimaginable.
D'impensable, exactement. Et puis, vous imaginez la situation, vous vous séparez, et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe les mois, les années suivantes? Vous attendez de trouver celui ou celle avec qui vous allez pouvoir avoir ces enfants qui ne venaient pas avec le premier. Enfin, tout ça oblige à se poser des questions complètement surréalistes. C'est très moderne, je trouve, comme configuration. De la même manière, d'ailleurs, que les familles recomposées, enfin dans le cas de Diane, Aurélien et de la fille du premier mariage d'Aurélien qui s'appelle Pauline dans le livre, qui est un personnage que j'aime beaucoup, tout comme d'ailleurs j'aime beaucoup ma belle-fille que je connais depuis qu'elle a 5 ans et qui va en avoir 13 bientôt, donc c'est une très longue histoire entre elle et moi.
Salut.
Oui, je la salue également. Mais voilà, ça oblige à se poser des questions de femmes, d'hommes et de couples auxquelles on n'avait jamais pensé avant. Et ce qui est vrai, c'est que je ne sais plus qui nous avait dit ça au démarrage. Un peu, en gros, soit ça va vous séparer, soit ça va vous resserrer les liens entre vous. Et je ne pense pas que ce soit jouer d'avance. Enfin, je veux dire, la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Dans notre cas, c'est vrai qu'on a eu la chance que ça resserre plutôt les liens entre nous, mais ça aurait vraiment pu être autre chose aussi.
Autre sujet que vous décrivez très bien, vous avez une plume à la fois parfois douce, mais parfois très acérée, c'est les médecins et leur attitude et parfois leur manque d'humanité vis-à-vis de vous, de votre situation et probablement vis-à-vis de la situation d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que vous, c'est quand même très réaliste et on sent le vécu.
Oui, je pense que ça faisait partie des choses que j'avais envie de ou besoin peut-être de raconter. J'ai commencé à écrire La peau des pêches Je crois que dès les premiers mois, je savais que j'avais envie d'écrire ce livre, mais j'étais pas sûre d'y arriver. J'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui était sensible au sujet, aux éditions Stock, mais qui m'a tout de suite, un peu secoué les puces en me disant, en revanche, il faut pas écrire un roman. Ça peut pas être un personnage totalement fictif et littéraire. On se fiche un peu de savoir ce qui serait arrivé à votre meilleur ami imaginaire. Il faut qu'on entende votre voix. Et je ne sais pas, m'avait-il dit, si vous allez être capable de faire ça. Donc je pense que j'ai aussi voulu lui montrer que j'en étais capable et que ça m'a porté. Mais dans le cadre notamment des sujets des interactions avec les médecins, c'est vrai que il y a des médecins qui sont incroyable, extrêmement bien intentionné, empathique et dans une logique, j'aime bien ce terme holistique, c'est-à-dire prendre le patient, la patiente face à eux, dans toutes ses facettes, à la fois médicales mais aussi humaines.
Dans sa globalité.
Oui, et vouloir avoir une approche qui n'est pas que centrée sur le résultat ou l'absence de résultat, mais qui joue aussi, qui tient aussi compte de ce que pense la personne, de ce qu'elle ressent, de son évolution face au parcours, de ses douleurs physiques, psychiques, qui va faire intervenir des médecines douces quand c'est nécessaire. Donc, on a eu la chance de rencontrer un médecin comme ça au bout de 4 ans. Auparavant, on avait eu l'occasion effectivement d'expérimenter des médecins beaucoup plus rudes dans leur approche. Je crois comprendre que c'est souvent le cas, ou en tout cas que ça arrive assez régulièrement en AMP, alors que ce que disent les patients et les anciens patients, c'est que le jour où ils rencontrent un médecin avec cette approche holistique-là, ça change tout.
Et qu'est-ce qui déshumanise, je reprends, qu'est-ce qui déshumanise les médecins, vous avez rencontré qu'il y a une attitude de ce type-là?
Encore une fois, en fait, c'est là d'ailleurs où il ne faut pas se tromper sur les dynamiques qui ont pu me pousser à écrire ou à décrire notamment des dialogues avec, je pense à un médecin en particulier qui nous a accompagnés pendant plusieurs années, qui avait de très bons résultats par ailleurs, mais qui avait cette approche assez déshumanisé, comme vous le dites. Moi, je pense que ce sont des gens qui peut-être se protègent tout simplement, qui ont souvent face à eux ou face à elles des patients en souffrance, qui multiplient ces cas de souffrance-là, qui voient parfois des patients en larmes, des fausses couches à des stades plus ou moins avancés et qui mettent une espèce de carapace de protection. Donc, il ne s'agit absolument pas de les juger, c'est pas mon point. En revanche, c'est là où c'est un acte littéraire aussi, c'est raconter les choses de manière à ce que les gens concernés se sentent moins seuls, comprennent qu'ils ne sont pas isolés dans leur situation, et puis peut-être de manière à ce que les médecins, effectivement, qui lisent ce livre prennent un petit pas de côté, adoptent un petit pas de côté pour peut-être faire évoluer leur pratique. En tout cas, dans le cadre du rapport que j'ai pu rendre ensuite à Olivier Véran et à Adrien Taquet sur ces questions de l'infertilité et sur la situation en France en matière d'infertilité, avec à nouveau des recommandations formulées auprès du gouvernement pour faire changer les choses en France, j'ai pu échanger avec des tas de médecins extraordinaires, ultra engagés, dont le fait de lutter contre l'infertilité et de permettre à des couples de devenir parents est la passion, le centre d'intérêt, l'unique obsession. Et c'est aussi évidemment à cela que je pense, avec un petit bonjour plus qu'amical, affectueux et reconnaissant à l'égard du médecin qui nous a accompagnés et qui nous a permis à mon compagnon et moi de devenir parents de jumeaux après ce long parcours.
Finalement, à quoi avez-vous le sentiment d'avoir survécu ?
Je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de ne pas avoir d'enfant. J'en avais envie depuis toujours. j'étais à ce moment-là, enfin, quand on était au plein milieu de ce parcours-là et qu'on commençait à nous dire que les médecins successifs commençaient à nous dire qu'il était très possible que ce parcours n'aboutisse jamais, que peut-être on pourrait aller voir aux États-Unis, en Espagne ou en Grèce comment ça se passait, mais sans assurance de succès, et qu'il fallait se préparer à d'autres options, que d'ailleurs je regardais aussi les questions de l'adoption, qui ouvrent d'autres sujets, d'autres défis, d'autres parcours très durs et très longs. Donc, j'étais un peu poussée dans mes retranchements, on va dire, par rapport à cette question-là, et ça aurait été... J'ai fait l'exercice de m'imaginer ne pas être maman. Je l'ai fait à de maintes reprises, sous plusieurs angles différents, et ça, voilà, je sais pas si j'ai survécu à ça, mais je suis contente d'avoir échappé à ce cas de figure qui, je pense, aurait fait de moi une personne moins complète. En revanche... et j'essaie de l'écrire un peu, pas du tout comme une leçon de morale, parce que j'espère que vous l'avez compris, je suis pas du tout là-dedans, mais comme un retour d'expérience. Je pense que le parcours, ce parcours-là, avec tous ces échecs, tous ces rebondissements, toutes ces violences, ça m'a rendue meilleure, enfin en tout cas plus forte. Et alors, je ne vais pas dire que rétrospectivement, je suis contente de l'avoir vécu, parce que ce serait d'abord pas tout à fait vrai, et puis ce serait aussi faire injure à tous ceux qui sont dans ce parcours-là et qui en souffrent encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne suis pas la même personne aujourd'hui qu'avant, et que je suis plutôt alignée avec ça.
Je vais répondre à votre place en vous citant. Ça prend un peu de temps.
J'allais dire de manière plus synthétique, peut-être.
Non, pas du tout, parce que ce que vous venez de dire, c'est très beau, et merci. Mais ce que vous écrivez, je trouve, est très touchant. Pour l'heure, ce que j'ai accepté, c'est cette étrange épreuve que nous traversons, Aurélien et moi, et qui semble aujourd'hui ne pas avoir de fin. Ce que j'ai accepté, c'est que cette épreuve... Je vais reprendre. Ce que j'ai accepté, c'est ce que cette épreuve m'a apporté. Mon essence a changé. Mon corps aussi. Je me sens usé. Cela ne me dérange plus. C'est drôle. Les années m'ont nourri comme jamais je ne l'avais été auparavant. Ces années m'ont nourri comme jamais je ne l'avais été auparavant. À mesure que je fatigue, je gagne aussi, je crois, en vitalité. Le cours des événements prend moins d'importance. Qu'est-ce qui ne peut pas me faire peur à cette terreur? Qu'est-ce qui peut me faire peur à part cette terreur avec laquelle je m'organise? Ne jamais pouvoir être mère. Qui peut m'effrayer? Tout est repositionné. La méchanceté des uns, la lâcheté des autres, qu'est-ce que cela peut nous faire? Reste la nécessité d'agir, d'avoir un impact, de rendre ces années belles, riches, riches, denses, utiles, envers et contre tout. Et quand je me sens vacillé, c'est vers Paul Valéry et le poème qui a accompagné mon grand-père jusqu'à la mort que je me tourne. Beau ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étranges, oisiveté, mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. Je crois que ça répond vraiment très bien à la question que je vous ai posée sur, finalement, qu'est-ce qui vous a transformé ou quelles sont les leçons que vous en avez tirées.
Oui, vous voyez, je ne relis pas souvent la fin de ce livre, ni le début d'ailleurs, parce que ça m'émeut toujours beaucoup.
C'est vrai que c'est la fin du livre.
Oui.
C'est dans votre chapitre conclusif. Moi, je vais vous le dire, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ce dernier chapitre, qui est très beau, je ne veux pas dire de quoi il s'agit, mais il résume parfaitement, finalement, toutes les pages précédentes, mais avec une forme de douceur, de beauté et d'élégance, malgré toutes vos souffrances.
C'est gentil, même. Je suis contente, en tout cas, de... en l'entendant dans votre bouche, de me rendre compte que je suis toujours assez d'accord avec ce que j'écrivais il y a plus de 3 ans maintenant.
C'est quoi le grand rêve de Salomé Berlioux aujourd'hui?
Cette question de l'équilibre, un mot que j'aime vraiment beaucoup et après lequel je cours, y compris en étant parfaitement consciente que l'équilibre, c'est aussi une forme de déséquilibre, et qu'un équilibriste sur un fil, il est forcément en insécurité et il peut vaciller, il peut tomber. Mais voilà, j'imagine que le rêve, c'est de trouver cet équilibre entre des aspirations profondes sur le plan personnel, maintenant sur le plan familial, des envies de faire des choses, d'avoir de l'impact, des fantasmes d'enfants ou d'adolescents qui sont peut-être pas totalement résolus, la question du désir aussi dans tout ça, identifier son propre désir et réussir ensuite à le mettre en musique, et pas juste un an, deux ans, trois ans, mais sur le long terme. Et je pense que le fait d'avoir vécu pendant très longtemps avec mes grands-parents, notamment avec ma grand-mère, et d'avoir été comme ça à proximité de personnes âgées dans leur intimité, dans leur quotidien jusqu'à leur mort, j'imagine que ça me rend quand même très consciente du temps qui passe, et avec une forme d'obsession de comment ce sera quand j'aurai 85 ans et que je me retournerai.
Ça peut être une angoisse pour vous, le temps?
Alors, l'angoisse... L'angoisse, c'est ça. L'angoisse, c'est le fait de me retourner un jour sur ma vie et de me dire que je suis passée à côté de quelque chose, ou que je n'ai pas abouti ou fait aboutir tel projet, ou que j'ai rendu des gens, si ce n'est malheureux, en tout cas pas aussi heureux que je l'aurais voulu. C'est ça, l'angoisse. Mais j'imagine que c'est partagé par plein de gens qui nous écoutent. Mais c'est un aiguillon tous les jours, en fait, hein, le fait de se dire « Ok, autant que possible, il faut qu'à la fin, la vision globale, l'image que je regarderai quand je serai très âgée et peut-être très fatiguée, soit, oui, autant que possible, en harmonie avec ce que j'ai voulu faire, avec qui j'étais, et en adéquation avec... mon désir et mes envies profondes et celles des autres, et cette envie, encore une fois, le terme d'impact n'est pas très joli, mais d'agir pour les autres à ma mesure, de faire bouger les lignes sur un certain nombre de sujets, encore une fois, modestement, mais très résolument. Voilà, donc l'équilibre, ce serait ça, le mot-clé pour moi pour les prochaines années.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas, Salomé, d'avoir passé un moment avec nous et de s'être livré à cet exercice, à la fois plus d'études un peu sur votre impact sur les jeunes et la manière de les aider, et également sur votre histoire beaucoup plus personnelle, mais j'encourage vraiment les auditeurs à découvrir vos ouvrages, à les parcourir, et derrière vous découvrir aussi quelqu'un, je crois, qui a en tout cas un impact en France. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci de m'avoir invité.
Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook, et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt.